Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau podcast Smart Talk de Smart Corner. On est très content aujourd'hui d'accueillir non seulement un nouveau collègue chez Smart Corner, mais également quelqu'un qui est très connu dans le monde des médias. Bonjour Yannick Chevalier.
Salut Nicolas.
Yannick, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases?
Ok, très rapidement, je vais essayer de résumer quelques 20 années de collaboration et dans les médias et dans le monde du marketing, mais aussi dans la formation. J'ai démarré ma carrière avec véritablement la découverte de l'univers des médias, mais des médias qui étaient plus classiques. On a aujourd'hui plus de médias digitaux, enfin ça s'est transformé, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, j'ai basculé dans le monde du marketing, de la publicité, donc chez McCann Erickson en Suisse et à l'international. Et puis, pour terminer tout ça, il y a quelques temps, j'ai passé par le monde de la formation pour transmettre un peu, d'une part, ce que j'avais acquis, mais aussi pour participer au développement des nouvelles générations dans le monde du marketing, de la communication.
En tant que CEO du groupe Savi, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontré la première fois.
C'est juste.
Voilà, j'étais professeur là-bas. Yannick, toi qui as vu différentes étapes d'évolution des médias à travers tes différentes expériences, comment tu vois l'évolution des médias actuellement? On parle de la fin de la presse écrite, on parle de beaucoup de différences, beaucoup d'évolutions. Comment est-ce que tu vois, selon toi, même si tu n'as pas de boule de cristal, comment est-ce que tu vois les 10 prochaines années dans le monde des médias?
Tout d'abord, les médias ont attendu un peu trop longtemps l'arrivée du digital. Ça, c'est dommage. On le voit avec les GAFA. Souvent, tous les médias ont donné leur contenu à Google ou à Facebook. Les gens continuent à lire. Je prends par exemple la lecture de littéraire, c'est toujours très 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 utilisé, transmis aussi dans les écoles. Les médias classiques doivent se réinventer et ils l'ont fait pour certains. On voit des plateformes par exemple aux États-Unis, que ce soit le New York Times, qui a vraiment travaillé sur une nouvelle approche digitale. Et puis il y a toute la partie nouvelle clientèle, nouveau lecteur, nouveau fan, si on peut l'appeler comme ça. Et puis, pour terminer, je dirais qu'il y a surtout, et après je reviendrai sur le futur des médias comme je peux l'imaginer, il y a cette nouvelle tendance de dire, est-ce que le métier, qu'est-ce que doit faire un média? Moi, je crois véritablement un média, aujourd'hui, c'est devenu une marque. On le voit avec l'exemple du Temps, qui est proche de chez nous. Les équipes du Temps ont su créer des événements à travers la marque, ont su attirer à l'intérieur de leur propre rédaction des micro-événements, c'est-à-dire soit des événements qui concernent le journalisme, soit des fêtes société, soit par exemple des concerts classiques. Les gens veulent plus, ils veulent davantage. Ils veulent s'identifier à la marque, ça c'est sûr. Alors, évidemment que la presse régionale, si je reviens, je descends, la presse régionale sera toujours très régionale, elle sera toujours très attendue dans les boîtes aux lettres. Mais quand on parle de suprarégionalité ou même de nationalité ou même internationale, il faut véritablement arriver avec quelque chose de plus.
Parce que la consommation d'informations aujourd'hui, on se rend compte que, moi je vois, j'ai vu une étude aux États-Unis qui disait que les gens s'informent à travers des plateformes comme Facebook. Donc au lieu d'allumer CNN par exemple, ils vont liker la page CNN sur Facebook pour recevoir ces informations sur une et même plateforme. Ça, c'est quand même un énorme risque pour les médias, non ?
Tu prends l'exemple de CNN, Facebook s'est approprié le contenu de CNN gratuitement. Voilà. Et ça, c'est c'est une grave erreur. Après, tu ne peux pas revenir auprès de tes téléspectateurs, enfin auprès de ton auditoire, en disant « vous devez payer pour avoir du contenu, vu que je le trouve sur le net ». C'est ça qui est compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance de participer à un projet, si tu permets que je donne des exemples très concrets aussi. Un projet qui s'appelle Combini. Combini, plateforme incroyable créée par deux personnalités du monde de la publicité en France. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte très vite qu'on fait du journalisme, mais on fait du journalisme évidemment de plutôt ce que fait d'ailleurs Smart Corner, du marketing de contenu. C'est-à-dire on crée de véritables histoires, du contenu pour une cible donnée. Et ça change un peu du métier de journaliste qu'on connaît en disant on veut faire de l'investigation pure et dure, où on veut créer des articles, où on veut écrire des éditos incroyables. Il y en a besoin toujours, mais je pense que les gens aujourd'hui ont une telle masse d'informations qu'il faut les envoyer dans une expérience, quoi.
Une expérience bien spécifique par rapport à un segment choisi, en fait. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui être généraliste dans un média, ou est-ce qu'on doit vraiment se focaliser sur un segment qu'on choisit?
Non, je dirais que je vais faire une comparaison avec le marketing ou avec la segmentation d'une entreprise. Je crois qu'on doit être ultra segmenté aujourd'hui. On peut être segmenté sur plusieurs cibles, mais dans toutes les actions qu'on fait, on doit être ultra segmenté. On voit qu'on va. Alors, je vais prendre un exemple peut-être un peu trop connu, mais on ne s'adresse pas à quelqu'un de 60 ans de la même manière que quelqu'un qui a 20 ans. Mais ça s'est encore renforcé avec les changements technologiques. Parce que la personne qui a 20 ans s'informe davantage, mais celle de 60 ans aussi.
Le format, comment est-ce qu'on forme le message pour le délivrer? Tu parlais de Combini, moi je suis un grand fan, hein. J'ai toujours été un grand fan de Combini. Je pense que c'est un média qui est totalement disruptif et dans leur façon de délivrer un message à leur manière, avec leurs pattes. Ouais. Ça devient vachement compliqué aujourd'hui de trouver le bon format pour capter l'attention, quoi.
Oui, alors ça c'est... Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que si je prends l'exemple, tu es dans un dîner avec des amis et puis quelqu'un lance une conversation sur une thématique bababoum, je ne sais pas, il y a une partie de la table qui n'aura pas grand-chose à faire et qui n'écoutera pas. Et là, on revient sur le problème de segmentation. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'actualité, la news, hein, pure et dure. L'actualité, elle est devenue ultra spontanée, hein, on a tous ça dans les mains. Donc ça, c'est quelque chose où tu n'as pas forcément besoin de segmenter ou de réfléchir à un contenu. Tu dis voilà ce qui se passe. Boum, tu déroules. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne qui est en face de nous? Quel discours je dois adapter? Sur quel sujet donner? Mais en fin de compte, tous les sujets sont intéressants parce qu'ils ont tous un public donné, quelque part. Et je voyais chez Combini, on avait une charte évidemment journalistique, une façon de faire qui était très, très carrée, très cadrée, mais on traitait tous les sujets. Ouais. Sauf des sujets peut-être qui sont un peu plus tricky, comme tout ce qui était l'armement, les problématiques de or plutôt médical, etc. etc. Donc on peut traiter tous les sujets parce qu'on a une population qui est susceptible, dans chaque type de population, tu as quelqu'un qui s'intéresse. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça suffit d'avoir 10 personnes qui lisent ton sujet, quoi? Est-ce que je le fais que pour 10 personnes?
Oui, c'est clair, les chiffres derrière comptent. Et tu parles de Combini, le fait que c'était un média un peu assez innovant. Ouais. On dit beaucoup, on entend souvent, moi je l'ai très souvent dit, qu'une entreprise, avant de faire ce qu'elle fait, elle devrait se considérer comme un média, dans le sens où si elle ne communique pas, si elle ne donne pas envie aux gens, si elle ne crée pas un certain affect, un certain côté relationnel avec la marque, elle a beau vendre le meilleur produit ou le meilleur service, les gens n'achèteront pas. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, je me bats souvent pour faire comprendre l'importance de se considérer comme un média, c'est-à-dire créer du contenu et le partager. Mmh. Et ça doit même être une priorité, c'est un peu extrême ce que je veux dire, avant de vendre mon produit.
Mais je suis d'accord que, tu vois, c'est l'exemple du mec qui vit dans sa caverne au fin fond de l'Oberland bernois, personne ne va le connaître. Par contre, il saura faire, par exemple, des sabots en bois incroyables, que j'ai acheté récemment. D'ailleurs, je t'en ai acheté une paire, je les amenais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'il faut imaginer, toute entreprise doit se faire connaître, et c'est pas mal. Je trouve que l'approche de ce que tu cites, être un média avant tout, est juste, parce que il n'y a pas que simplement le produit ou le service. Il y a ton rôle social, tes activités extra travail, tes employés. Enfin, tes équipes, les équipes sont super importantes. Moi, tu me connais, moi j'ai des valeurs humaines assez fortes. Et je crois que tout ça, il faut le communiquer.
Je pense spécifiquement pour des entreprises de services, plus que le produit, c'est vrai qu'on peut adorer un produit. Et puis, dans certaines marques ou certaines industries, on peut se dire, bah, écoute, les valeurs des gars qui bossent pour cette boîte, c'est secondaire. Mmh. Ceci étant, je pense qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'entreprises de services. Et dans le service, je pense que la marque, elle est presque secondaire dans le sens où on a généralement on a envie de travailler avec des êtres humains qu'on trouve sympathiques, qu'on trouve originaux, oui. qu'on trouve remplis de valeurs. Mm-hmm. Et la marque, elle est presque parfois secondaire. Et c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais d'où l'importance, je pense, que de certaines personnes clés dans l'entreprise de service de se mettre un peu en avant et de communiquer, de se montrer.
Oui, alors ça, je suis complètement d'accord. Prends l'exemple. Si on prend l'exemple des assurances en Suisse, je ne citerai pas de marque là, mais en fin de compte, elles font toutes le même métier. Elles gagnent toutes beaucoup d'argent aussi. Enfin, elles gagnent de l'argent comme toute entreprise qui fonctionne bien, et ça, c'est tout à fait juste et honorable. Mais qu'est-ce qui différencie la marque A, enfin la société A de la société B? Ben, c'est l'humain. C'est-à-dire que tu vas voir le conseiller Monsieur Schmidt de la marque A, et puis en fait tu vas pas t'entendre avec, et tu signeras avec l'autre.
Peut-être qu'une bonne communication, de transpirer une certaine sympathie, ça peut justement moins rendre dépendant les entreprises d'uniquement d'un tarif en fait.
Ouais, je pense que t'as raison, et Dieu sait si c'est chouette de parler comme ça, parce que c'est notre métier et puis on adore le faire, et je crois que l'entreprise aujourd'hui et demain aussi, elle a besoin de rôle social de plus en plus. Quelle est l'éthique de cette entreprise, quelle est, je vais aller très loin, c'est peut-être aussi de se dire, est-ce qu'ils consomment trop, est-ce que la flotte de véhicules est électrique, tous ces genres de paradigmes sont devenus très importants aux yeux des consommateurs, et probablement dans un premier temps c'est avant le prix et avant le service. Et après, il y a la façon dont les messages sont écrits, et ça, c'est là où nous, on intervient, la façon dont les messages sont écrits et comment ils sont diffusés et communiqués. On sait que je reprends l'exemple des assurances, elles sont pour certaines très en retard sur le monde du digital. C'est la même chose pour les banques aussi, souvent. Bon, en Suisse, on a une des banques les plus fortes au niveau digital qui est Swissquote, que je peux citer parce que je trouve que c'est une exemplarité de vision et de mise en place pour le futur. Mais les assurances, aujourd'hui, il faut passer la deuxième quelque part. On a ni toi ni moi, on a le temps de recevoir 10 courtiers, même si l'humain est important. Il faut en présélectionner 2 ou 3. Et puis après, prendre le temps de discuter avec la personne.
Si on sort de ces grandes entreprises, on voit que l'économie en Suisse est gérée 99% par des PME. Alors, il y a PME et PME, en effet. Mais si on prend des petites structures de moins de 50 collaborateurs, ouais. J'ai pas envie, on s'est promis de pas parler de la situation actuelle de crise, ceci étant, quand on voit toutes ces petites structures qui souffrent lorsque l'économie va mal, on va dire d'une manière générale, comment est-ce que tu vois, quelles seraient les recommandations que tu donnerais en termes de marketing com, ou même au-delà de ça, à des patrons de PME aujourd'hui, face à un peu ce mouvement économique qui est vraiment incertain?
Bon, tout d'abord, je les salue parce que moi, j'ai toujours je n'ai plutôt jamais eu la force de devenir entrepreneur. J'ai toujours travaillé pour des grandes entreprises, enfin j'ai toujours travaillé pour des entreprises, mais je salue leur bravoure, dont toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Je crois qu'il y a une première chose, c'est que, alors évidemment on ne va pas parler, on a promis qu'on n'allait pas trop là-dessus, mais enfin ce qui nous occupe aujourd'hui en termes de confinement, une situation catastrophique mondiale, je le rappelle, va nous permettre de réfléchir, prendre un peu de distance, enfin doit surtout nous permettre de réfléchir et de prendre la distance, et va surtout accélérer un processus de changement de paradigme. Et c'est là-dessus que je vais rebondir par rapport à ta question, c'est que, premièrement, en Suisse, je ne comprends pas pourquoi les entrepreneurs ne sont pas davantage protégés, pourquoi ils n'ont pas le droit au chômage. C'est le reflet de l'innovation, de l'artisanat au sens peut-être un peu plus large du terme, mais c'est le reflet d'un pays. Des grands groupes, c'est pas le reflet d'un pays, mais l'artisanat, oui, enfin les entreprises, oui. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Après, c'est les valeurs humaines, c'est-à-dire de manager non pas simplement son entreprise, mais manager aussi ses gens différemment. Et je le dis, je le dis à chaque fois, c'est pas l'entreprise qui fait les humains, c'est les humains qui font l'entreprise. Et si vous prenez les entreprises les plus fortes au niveau, je sais pas, 440, SMI ou des trucs comme ça, vous enlevez leur masse d'humains, bah ça marche plus, hein. Donc il faut arrêter de croire qu'on a la chance de travailler pour cette entreprise. Enfin, c'est d'abord nous qui amenons une valeur ajoutée. Enfin, c'est l'humain qui amène une valeur ajoutée. Donc je pense que là, il y a aussi un changement d'approche. Il faut peut-être davantage impliquer ses employés. Je vais citer un exemple de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Chris Flückiger, qui est le créateur et le patron, enfin semi-patron maintenant, puisqu'il a intelligemment transmis sa société à ses employés, Mediatonic. Il a, depuis longtemps, il s'est dit, ben, moi, je peux faire quelque chose, mais je ne peux pas le faire seul. Et il faut que j'amène de la valeur ajoutée. Donc, je vais transmettre. Donc, ça, c'est peut-être une des pistes, c'est que les entreprises, les entrepreneurs doivent plus donner de part à leurs employés, doivent les faire entrer dans le capital et les manager différemment. La troisième chose qui moi, me semble importante, c'est de communiquer différemment. Alors, j'adore, je prends toujours l'exemple du patron qui va jouer aux cartes avec ses amis le soir, et puis c'est là où il va signer un contrat, ou lors d'un repas, ou un tournoi de golf. Hein. Je trouve que ça, il faut qu'il garde ça, parce que c'est le meilleur ambassadeur pour son entreprise. Encore une fois, hein, quand je dis patron, ça peut homme ou femme, hein, qu'on soit bien d'accord, pas qu'on soit mal perçu. Voilà, mais ça suffit plus. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. D'ailleurs, c'est ce que nous savons faire en tant que marketeurs, et particulièrement chez Smart Corner, c'est d'amener une valeur ajoutée de l'entreprise, des gens, des humains, à travers, bah, par exemple, un média qui est le digital.
Ça te choque aujourd'hui de voir le nombre d'entreprises, de petites structures, hein, je parle. Bon, là, ça concerne aussi les grandes, qui, franchement, n'investissent pas beaucoup là-dedans. Et je suis pas en train de dire ça parce que c'est notre métier, t'as compris. C'est juste qu'il y a beaucoup de domaines d'activité qui, sincèrement, qui n'utilisent pas toutes les possibilités de segmentation et puis d'adresser un message bien précis, un segment bien précis, en dépensant 50 francs et en ayant des résultats incroyables. Mais pourquoi ?
Moi, je vais te donner un autre exemple par rapport à Combini. Les plus gros contrats qu'on a signés en Suisse avec Combini ont été des contrats qui n'étaient pas gagnés d'avance du tout. Mais du jour au lendemain, le boss nous appelait ou m'appelait en disant « Ouais, bah, écoute, j'en ai parlé avec mes filles. Elles sont totalement fans, elles m'ont montré, on signe. » Je citerai pas le nom des entreprises, mais c'est des grosses structures. Et c'est là où je dis, on a une méconnaissance, c'est que...
Donc, dans ce que tu es en train de dire, je m'excuse de t'interrompre, c'est vraiment qu'une campagne digitale ou de la communication sur le digital, c'est pas... Parce qu'on entend quand même souvent, et je le comprends totalement, hein, vraiment, ça fait 6 mois qu'on est sur le digital, on n'a pas forcément de retour de vente concret par rapport aux campagnes, mais en fait... ça apporte autre chose. C'est pas de la vente. Hein. Et souvent, on fait ce mélange de confondre des campagnes de vente où le convert est important et des campagnes de marketing qui vont créer un lien avec la marque et les gens. Et la preuve, c'est que si des filles ont dit « oui, j'ai vu, on y va », etc., c'est que justement, il y a eu ce capital émotionnel qui s'est créé à travers toutes ces campagnes. Quoi. Et ça, c'est aussi c'est le rôle, je pense, principal du marketing.
Oui, alors, si tu, j'inverse la question, je parle d'une situation économique plutôt saine, entreprise 30 personnes, très bon chiffre d'affaires, une bonne marge brute ou une bonne marge nette depuis 10 ans, c'est quoi la prochaine étape ? Si tout d'un coup, ils décident de passer du simple au double de chiffre d'affaires, ben, ça demande un engagement quand même hyper important, c'est-à-dire qu'il faut engager du personnel, il faut réfléchir un peu différemment, il faut réorganiser, restructurer. Bon. Le digital n'amènera pas à ça. Par contre, tu n'as pas besoin de passer du simple au double. Mais tu peux par exemple te dire, en tant que patron d'entreprise, je prends 10% de plus. Ouais. Ou 1% de part de marché supplémentaire. Ou je remercie simplement mes clients d'être autant fidèles. Tu vois, donc je crois qu'il ne faut pas, tu l'as dit toi-même, il n'y a pas que la vente, il y a toute une notion de communication, de ce que fait l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise, envers un public, quoi, ouais. Qu'il soit ou pas client, peu importe.
Une marque qui refuse de monter dans le train est une marque qui va, ces 10 prochaines années, selon toi, souffrir et un peu disparaître dans la tête des gens. Je veux dire, si on regarde, même, ça fait 60 ans que Coca communique d'une manière intensive pour tenter les leaders du marché. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à communiquer comme ça ? Parce qu'ils le savent, si on arrête de communiquer, on disparaît dans la tête des gens. Mm-hmm. Et il y en a un autre qui prend la place, quoi. Donc, donc, ce serait tes conseils de repenser à la structure de management des entreprises, et à communiquer plus.
À communiquer plus, puis à communiquer dans, au sens large du terme, c'est-à-dire d'être fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je veux dire, c'est pas qu'une simple entreprise, c'est une ligne de vie, quoi. C'est un parcours de vie. Donc, je trouve important de le partager. Et en faisant plein d'activités, mais n'oubliez pas vraiment, encore une fois, tout ce qui est l'approche digitale.
Yannick, dernière question, un peu plus personnelle pour Smart Corner. Pourquoi, peux-tu expliquer pourquoi tu as fait ce choix
de rejoindre Smart Corner? Waouh. Bon, tu le vois à mon sourire et à la gestuelle. Je crois que première chose, je parlais de valeurs. Hein. Il y a déjà des valeurs entre nous. On se connaît depuis plusieurs années maintenant. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié à collaborer avec toi. J'ai toujours eu le sentiment qu'on pourrait un jour ou qu'on devrait un jour faire quelque chose ensemble. Mais aussi, je me suis promis il y a un peu plus de 2 ans de plus rentrer dans une seule entreprise et d'avoir 2 facteurs fondamentaux. Un vrai projet et des valeurs humaines. Et là, chez Smart Corner, j'ai ces 2 choses. Et puis pour terminer, peut-être, parce qu'on est aussi un peu des marketeurs, vu de l'extérieur, bon, maintenant je suis rentré dans Smart Corner, donc on aurait dû faire cette interview il y a 2 mois, mais partons du principe que je ne suis pas là, on n'a pas encore signé par exemple, mais vous êtes, c'est une structure qui est ultra innovante, c'est une structure qui a compris tout ce qu'on vient d'expliquer là aujourd'hui, qui le résume à travers vos actions, nos opérations, c'est-à-dire que il y a un marketing de contenu, il y a du storytelling et puis il y a une véritable maîtrise des outils digitaux. Vous avez la stratégie, ce qui est le fondamental, le marketing et puis après vous savez le créer et le diffuser. Donc c'est pour ça aussi, au-delà des valeurs et le projet, c'est aussi pour ça que je me suis dit, bah tiens, à 48 ans, c'est l'heure peut-être de renfiler des baskets et puis de se dire, allez, on reva sur quelque chose d'innovant et qui est dans la prédictive, à mon avis, qui a un bel avenir, ça j'en suis sûr.
Je te remercie infiniment, Yannick. On va faire beaucoup de choses très intéressantes ensemble. Je m'en réjouis d'avance. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre notre chaîne podcast sur iTunes en vous abonnant à Smart Talk, notre chaîne de podcast, sinon sur nos sites internet. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci.
Ciao, bye.